On Air, une série de podcasts d'échanges autour de la BPCO et de l'asthme, réalisée par Fréquence Médicale, avec le soutien institutionnel de GSK. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts On Air, lors de laquelle nous allons vous aider à mieux comprendre les maladies respiratoires comme l'asthme et la BPCO. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la place de la triple thérapie dans le traitement de la BPCO. Et pour en parler, je suis avec le professeur Nicolas Roche, pneumologue à l'hôpital Cochin à Paris. Professeur Roche, bonjour.
Bonjour Madame Pasquier.
Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler la place de la triple thérapie comme option thérapeutique intéressante pour des patients chez lesquels la bithérapie ne serait plus ou pas assez efficace ?
Peut-être commencer par résumer les types de traitements inhalés qu'on a dans la BPCO, en rappelant que le traitement inhalé, c'est vraiment le cœur du traitement de la BPCO, parce que c'est ce qui permet d'apporter les médicaments directs sur la cible et donc d'avoir le meilleur rapport efficacité-tolérance. Donc ça, c'est un peu un préambule, mais c'est toujours pas mauvais de le rappeler. Donc les traitements inhalés qu'on a en traitement de l'équivalent du traitement de fond de l'asthme, on appelle ça le traitement de maintenance dans la BPCO, mais c'est le traitement régulier, disons, c'est d'une part des bronchodilatateurs qui sont des bronchodilatateurs de longue durée d'action pour le traitement de fond. Ce qu'on utilise comme traitement de secours, c'est des bronchodilatateurs de courte durée d'action. Et ces bronchodilatateurs de longue durée d'action, il y a deux familles, les bêta-2 agonistes et les anticholinergiques. Et puis de l'autre côté, on a des corticoïdes inhalés. Donc tous ces traitements existent seuls, isolément. Les bronchodilatateurs ont une indication dans la BPCO, les corticoïdes inhalés n'ont jamais d'indication seuls dans la BPCO. Donc, on commence habituellement le traitement de la BPCO par un bronchodilatateur de longue durée d'action. Si ça ne suffit pas, on va passer à une bithérapie. Quand on dit si ça ne suffit pas, c'est le malade garde une dyspnée au quotidien ou des exacerbations, ou les deux. Donc, on passe à une bithérapie. Et si la bithérapie ne suffit pas, c'est là que la triple thérapie a sa place. Et la triple thérapie, par définition, c'est l'association des deux familles de bronchodilatateurs de longue durée d'action, le bêta-2 agoniste, l'anticholinergique, et une corticothérapie inhalée. Donc, si on le présente en résumant tout ça en une seule phrase, l'indication de la triple thérapie, c'est un malade pour lequel une bithérapie, soit deux bronchodilatateurs longue durée, soit un bêta-2 longue action plus un corticoïde inhalé, ne permettent pas d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire réduire la dyspnée d'exercice et, si possible, réduire les exacerbations.
Et quand est-ce que l'on peut savoir quand il est intéressant de passer un patient sous triple thérapie ?
C'est purement clinique, en fait. La décision de passer le malade sous triple thérapie, c'est purement clinique. C'est un malade qui est, on commence jamais, déjà, ça c'est un message important, on commence jamais une prise en charge de la BPCO par une triple thérapie. Et ça, toutes les propositions, stratégies, recommandations nationales, internationales sont d'accord là-dessus. Triple thérapie, c'est jamais un traitement de première intention. Donc, en fait, la triple thérapie, l'indication, c'est un malade qui est sous bithérapie et qui va pas bien. Qui va pas bien veut dire, soit il garde une limitation dans ses activités quotidiennes à cause de la dyspnée, soit il a des exacerbations. Alors, quand on dit des exacerbations, c'est pas une par an qui va déclencher l'escalade thérapeutique, c'est au moins deux par an. À partir de deux exacerbations par an, ou une seule si le malade a été hospitalisé, on qualifiera le malade d'exacerbateur dit fréquent ou malade à risque d'exacerbation. Et donc, c'est ça qui va nous faire escalader. Donc, un malade qui est essoufflé dans sa vie quotidienne ou exacerbateur ou les deux, sous bithérapie, on passe à une triple. Il y a un élément qui est très important quand on parle d'escalade thérapeutique, d'augmenter progressivement le traitement, c'est de pas oublier ce qui est le reste en plus des médicaments, mais qui en fait doit même être avant les médicaments. Ce que je veux dire, c'est des mesures générales qui s'appliquent à tous les patients, qui sont vérifier que le patient a arrêté de fumer, si c'est pas le cas, de l'aider, d'encourager et de l'aider. Encourager l'activité physique, le manque d'activité physique est un des éléments qui détermine l'apparition d'un essoufflement. Donc, si on veut être efficace là-dessus, il faut à la fois les médicaments et l'entretien de l'activité physique. Ça, c'est crucial. Vérifier que le patient prend bien le traitement qu'il est déjà censé prendre. Quand je dis prend bien, c'est qu'il le prend et que la technique d'utilisation des dispositifs est correcte. Parce que sinon, ça peut pas fonctionner. Donc, il y a tout un tas d'éléments comme ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Mesurer la fonction respiratoire aussi pour vérifier que les symptômes sont concordants avec l'altération de fonction respiratoire et qu'il ne faut pas craindre une comorbidité associée. Ça ne sert à rien de majorer le traitement de la BPCO si le problème qu'on a, c'est une insuffisance cardiaque qui coexiste et qui aggrave les choses. Donc, il faut essayer d'avoir une espèce de checklist comme ça en tête, qu'on va systématiquement considérer avant de majorer ou en même temps qu'on majore le traitement médicamenteux.
C'est très clair, effectivement. Et quel est l'intérêt d'une triple thérapie sur la fréquence des exacerbations et sur la fonction respiratoire chez ces patients ?
Alors, l'intérêt de la triple thérapie, finalement, le principal intérêt, ou disons ce qui est le plus robustement démontré dans la littérature, c'est la réduction des exacerbations. Donc, quand on prend la triple thérapie dans les essais thérapeutiques et qu'on la compare aux différentes doubles thérapies disponibles, c'est-à-dire, comme je le disais, soit une bithérapie bronchodilatatrice longue durée, soit l'association d'un corticoïde et d'un bêta-2 longue action, dans les deux cas, ce qu'on observe, c'est une réduction de la fréquence des exacerbations, réduction qui est de l'ordre approximativement d'une vingtaine de pourcents. Et donc, c'est forcément pas négligeable chez ces patients qu'on considère, comme je le disais, comme un risque d'exacerbation parce qu'ils ont déjà présenté des exacerbations. Donc c'est vraiment la cible, c'est principalement les exacerbations. Cet effet-là s'accompagne, il peut s'accompagner d'une amélioration symptomatique, donc d'une amélioration de qualité de vie, d'une diminution de la dyspnée. Alors après, le bénéfice, l'amplitude de bénéfice dépend un peu de à quoi on se compare. Est-ce qu'on se compare plutôt à une bithérapie bronchodilatatrice, où le bénéfice va être essentiellement sur les exacerbations, ou est-ce qu'on compare à une corticothérapie inhalée plus bêta de longue action, où là on va avoir un double bénéfice à la fois sur les exacerbations, mais aussi sur la dyspnée forcément, puisqu'on rajoute un bronchodilatateur de plus.
Merci professeur Roche pour toutes ces indications très claires. Quel serait pour vous le mot de conclusion ou le take-home message de ce podcast ?
Je pense que le take-home message, c'est que la triple thérapie est un traitement qui est extrêmement utile dans la prise en charge de la BPCO pour tous les malades qu'on n'arrive pas à contrôler avec un traitement plus simple ou moins lourd, c'est-à-dire une bithérapie. Donc ça, c'est un premier point. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut conclure triple thérapie pour tout le monde. Il y a des indications qui sont basées essentiellement sur la clinique. En milieu très spécialisé, on peut s'aider aussi du taux des éosinophiles sanguins, mais c'est un peu une autre question. Mais en tout cas, c'est pas pour tout le monde, mais c'est très utile quand on en a besoin pour réduire le risque d'exacerbation.
Nous arrivons au terme de ce podcast. Merci beaucoup encore, professeur Roche, pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast On Air.